Merci d'avoir choisi Europe 1. Il est 13h01.
Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, ma mission chaque jour, vous montrer que vous êtes les acteurs du changement dans vos entreprises, vos territoires, vos associations. La France bouge et c'est grâce à vous. C'est aujourd'hui que le tribunal de commerce de Poitiers dira qui reprend la lingerie indiscrète en redressement judiciaire depuis juillet. Un secteur où la France a des savoir-faire, on a voulu s'intéresser aux dessous de la lingerie tricolore. On peut être brasseur, mais devenir leader de l'éclairage, sa mode et l'entreprise aujourd'hui qui va bien, merci. Et puis c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Un bracelet connecté français est lancé à destination des victimes. C'est la solution aujourd'hui et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, vous connaissez le numéro pour nous appeler, être en direct avec nous sur Europe 1. On vous attend comme chaque jour, Anissa, pour connaître vos témoignages. Écoutez aussi vos questions aujourd'hui, gros plan sur le monde de la lingerie.
Bah oui, venez nous dire comment vous choisissez votre lingerie, quels sont vos critères, venez nous en parler au 39-21, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Et puis on lit également tous vos témoignages et toutes vos questions aux invités de Raphaël Duchemin sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Ah oui, car certaines maisons disparaissent, d'autres sont en difficulté. Alors qu'il y a en France un véritable savoir-faire qui ne demande qu'à être exploité et que le secteur, vous allez le voir, résiste plutôt bien à la crise. Nos invités vont d'ailleurs vous le montrer pour les accueillir à mes côtés comme chaque jour. Elisabeth Assayag, bonjour.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous.
Et notre coach du jour, Nicolas Chabanne, fondateur de C'est qui le patron. Bonjour Nicolas.
Bonjour, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui.
Oui, beaucoup de chance, effectivement. Alors, il y a en France des lieux connus, reconnus à travers le monde pour leur savoir-faire. Je pense évidemment à Calais et sa célèbre dentelle, une matière première qui est souvent utilisée pour fabriquer nos dessous féminins. Bonjour Louise Feuillère.
Bonjour Raphaël, merci de m'inviter.
Merci d'être avec nous. Vous avez reçu le titre de meilleur ouvrier de France en lingerie, c'était en 2007. Vous avez aujourd'hui un atelier ici à Paris dans le 17e arrondissement. La couture, je crois qu'on peut dire clairement sans se tromper que vous êtes tombée dedans quand vous étiez toute petite.
Exactement, j'ai une grand-mère qui m'a fait coudre très très jeune.
Et 5 ans, c'est ça?
À 5 ans, oui, elle me faisait broder. Et je rêvais de me faire des habits de fée, alors maintenant j'en fais surtout aux autres femmes.
Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la corsetterie? Parce que c'est ça qui vous met le pied à l'étrier.
En fait, à l'adolescence, j'étais très intéressée par habiller le corps. Et ensuite, j'ai fait une école de mode. Et dans cette école, j'ai entendu un professeur dire « quand on sait faire le corset, on sait tout faire ». Et ça m'a passionnée.
Pourquoi? Parce que quand on sait faire le corset, on connaît
le
corps, de la femme.
Oui, on est vraiment dans une intelligence spatiale très, très pointue. Et je pense que c'est vrai qu'on peut s'attaquer à n'importe quel type de vêtements.
Elisabeth, le marché de la lingerie aujourd'hui, il se porte comment?
Alors d'abord, il faut savoir que c'est un secteur qui résiste et qui résiste surtout en France. Parce qu'en France, au niveau de la lingerie, on mêle le plaisir et l'achat de besoins. La lingerie féminine résiste mieux à la crise que par rapport aux autres pièces du textile. Hein. On estime le montant des ventes de lingerie en 2017 à plus de 2,5 milliards d'euros. Ce sont des chiffres qui viennent de l'Institut français de la mode. Mais par rapport aux autres années, les professionnels observent un tout léger fléchissement, un petit recul d'un peu d'autour de 2% du chiffre d'affaires de la lingerie.
Et elle est liée à quoi cette baisse?
Alors d'abord, on est dans une baisse globale du marché du textile, mais il est vrai que ce marché de la lingerie souffre aussi de sa dépendance à la grande distribution. Vous savez, les chaînes de lingerie qui concentrent tout de même un tiers des parts du marché, et c'est ce canal qui a le plus souffert en 2017, ce qui n'est pas le cas pour les petites marques de lingerie dont nous allons parler pendant l'émission.
Alors justement, vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il y a lingerie et lingerie, vous, Louise Feuillère, ou est-ce qu'on peut vraiment séparer les deux mondes, le monde de la grande distribution et le monde du savoir-faire comme vous le détenez aujourd'hui?
Je pense que on a un véritable point commun qui est l'art de la coupe, de toute manière. Après, il est plus ou moins maîtrisé, mais je pense que, d'après ce que je vois, les femmes qui passent le pas de la boutique, en fait, elles se posent des questions, souvent sur leur taille. Elles n'arrivent pas à bien cibler leur taille parce que le système de taille n'est pas unifié.
Et pourtant, on croit qu'il est standardisé, et ce n'est pas le cas selon la grande distribution et les magasins, les boutiques un peu.
Non, c'est-à-dire que chaque marque à son tableau de mesure. Donc, quand on est dans les petites tailles, ça va. Mais quand vous allez parfois dans des grandes tailles, c'est délicat. C'est délicat.
Vous avez toujours voulu vous mettre, vous, à votre compte pour pouvoir réaliser vos modèles. C'est un parcours du combattant ou pas du tout?
Non.
Non, ça a été simple.
Non, ça n'a pas été simple.
C'est bien d'entendre ça. Non, ce n'était pas un parcours du combattant. Tout est facile.
Non, je n'ai pas dit que les débuts n'étaient pas difficiles. Au contraire.
C'est différent.
Mais je dirais que je ne suis plus
vous
dans le parcours du combattant. Oui, j'étais portée par la passion, en fait. Et portée par ce que j'avais envie d'amener aux femmes en termes de joie. Et voilà.
Que dit le coach Nicolas Chabanne?
Louise, vous êtes quand même, vous faites de l'orfèvrerie, hein. C'est-à-dire qu'on est dans un marché comme tout, avec un principe de grande distribution, c'est vrai. Mm-hmm. Vous allez jusqu'à faire, j'imagine, des pièces qui peuvent être individuelles. On peut, parce que j'ai appris une chose incroyable,
hein,
puisque je me suis un peu renseigné, en me faisant beaucoup engueuler hier soir en regardant tous les sites de lingerie. Mais
on s'excuse auprès de madame.
Martina, je t'adore. Et j'ai appris, par exemple, que toutes les femmes ne savaient pas précisément comment était mesuré le bonnet. Ah, je me suis retrouvé plus intelligent
que Martina.
Donc c'était pour la première fois une sensation absolument géniale. Il y a une mesure toute simple entre la partie la plus importante et puis le dessous du sein, si j'ai bien compris. Vous ramenez. Qu'est-ce qui se passe quand on vient chez vous?
Je suis d'accord. Vous avez un différentiel de mesure. C'est ce qui aide aujourd'hui à acheter sur Internet. C'est un tableau de mesure finalement assez fin. Mais effectivement, quand on achète son soutien-gorge, on cherche aussi un certain volume, un certain dessin de sein. Et au jour d'aujourd'hui, un tableau de mesure ne va pas vous le donner.
Donc un sein est très particulier.
Oui.
À mon avis, il y a des particularités.
On peut le dire.
Là, il faut choisir chaque mot. Donc c'est un exercice pas très simple. Mais effectivement, vous arrivez donc à faire du sur-mesure. On peut parler de ça ou pas?
On peut faire, nous, notre spécialité, c'est le sur-mesure, effectivement. Et aussi, on fait des petites séries de luxe adaptées à chaque morphologie. Donc, on a développé au fur et à mesure du temps, grâce à l'expérience qu'on a dans le sur-mesure, on a détecté plusieurs grands types de morphologie. Donc, maintenant, on adapte les collections qu'on présentera bientôt, effectivement.
On reste ensemble, on continue à parler lingerie sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1.
Des dessous, c'est vrai, on en porte toutes, mais certaines marques ont voulu démocratiser cette lingerie. C'est le cas de Rouge-Gorge, dont les enseignes sont présentes en province. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et aujourd'hui on s'intéresse à la lingerie française à l'occasion de la décision pour la lingerie indiscrète. Ça va se passer aujourd'hui du côté de Poitiers. On vous tiendra bien sûr au courant sur Europe 1. Vous pouvez réagir et participer à cette émission, vous le savez, chaque jour. Vos témoignages, vos questions concernant la lingerie, c'est sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et au standard le 3921. Raphaël.
Toujours avec Elisabeth Assayag qui m'accompagne et Nicolas Chabanne, fondateur de C'est qui le patron, qui est notre coach du jour. C'est vrai que quand on pense lingerie, il y a des grandes marques françaises qui nous viennent à l'esprit, mais c'est oublier qu'acheter une culotte, un soutien-gorge, la plupart des femmes le font dans les grands magasins et certains groupes ont bien senti qu'il y avait une vraie place à prendre dans ce secteur. Bonjour Coralie De Bruyne.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous.
Merci de nous inviter.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous dirigez la marque Rouge-Gorge qui appartient au groupe Muliez. Au départ, son ancêtre, je crois, c'est Fildard.
C'est Fildard, effectivement. Donc Rouge-Gorge a 20 ans.
Ouais.
Elle est, c'est une marque française de lingerie qui propose un savoir-faire corsetier à prix accessible. C'est l'ADN effectivement de Muliez de la distribution, mais on est issu d'un industriel Fildard, donc le fil d'art, qui est à la base, qui date de 1903 puisque c'était une filature et qui produisait du fil à tricoter.
Ça veut dire qu'ils ont voulu se positionner à un moment donné sur ce marché-là.
Et en fait, effectivement, Fildard s'est développé puisqu'ils ont eu jusqu'à 2000 magasins. Et à un moment donné, en 1990, il y a eu une diversification parce qu'il y a eu une crise. Et dans cette diversification, ils ont vendu des produits de lingerie. Et nous, on émane de cette richesse industrielle. On est du nord de la France.
Ouascale, hein, c'est ça?
Ouascale. On a un siège avec 100 personnes à Ouascale et on a 700 personnes en tout chez Rouge Gorge parce que il y a 230 magasins, on a un site e-commerce, mais on a 230 magasins dans la France, donc on emploie en tout 800 personnes chez Rouge Gorge.
Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que avant Rouge Gorge, entre Fildar et Rouge Gorge, il y a eu Canel. Et il a fallu changer le nom parce que Canel, ça ressemblait un peu à Chantel, voilà. Notamment. Du coup, il y avait des confusions.
Voilà, il y a eu une contrainte effectivement de confusion avec Chanel, avec Chantel. Et finalement, de cette contrainte, on en a fait une opportunité pour renaître et créer Rouge Gorge. Et du coup, d'installer un projet basé sur notre savoir-faire, hein, corsetier, puisqu'on conçoit, on crée des produits. Sur ces 100 personnes au siège, 40 personnes sont dédiées aux produits, avec une équipe de stylistes dédiées de 6 personnes, une équipe de modélistes pour la mise au point des produits. Donc, on garde ce savoir-faire. Et effectivement, une autre force, c'est l'alliance avec un distributeur qui fait qu'on arrive à vendre dans une relation de proximité. On n'est pas basé à Paris.
Et votre credo, c'est quoi? C'est vraiment de faire
le savoir-faire,
du petit prix.
Exactement. C'est le savoir-faire mis à disposition d'une cliente avec des prix accessibles.
Alors justement, Elisabeth, c'est quoi le budget moyen aujourd'hui pour une parure de lingerie?
107 euros. Par femme. Et ce qui est paradoxal, c'est que les Françaises, nous sommes les consommatrices les plus importantes d'Europe en matière de lingerie. Donc quand je dis 107 euros, c'est la tranche des 15-24 ans qui est la plus dynamique. En 2017, elle est passée d'un budget de 108 à 110 euros. Et on a observé des pics qui vont jusqu'à 188 euros. Toujours chez ces 15-24 ans. Et ensuite, ce sont les plus de 45 ans. Elles ont les moyens, elles ont envie de se faire plaisir. Et là, le budget annuel pour les plus de 45 ans passe de 107 à 109 euros.
Ouais, deux petits euros de plus, c'est
ouais,
ça.
C'est pas mal.
C'est déjà pas mal.
Dans la matière.
Ça vous parle ces budgets-là?
Alors, c'est extrêmement important, effectivement. L'accessibilité prix, c'est extrêmement important. Je pense qu'il y a une exception française. Les femmes françaises aiment la lingerie. Et d'ailleurs, à travers le monde, je pense que la lingerie française est très appréciée. Et nous, notre rôle, c'est justement de jouer ce rôle d'accéder à cette belle lingerie corsetière.
Que dit le coach Nicolas Chaban?
On a là les deux univers, hein, travail, j'appelle ça de l'orfèvrerie, mais c'est pas limitatif, c'est un vrai savoir-faire, comme vous en avez aussi un. Après, il y a une démocratisation des
Exactement.
Produits pour le prix.
Oui,
est-ce que la famille
Mugliese... Un parti prix différent.
Voilà, c'est un parti prix différent, mais il faut évidemment de tout, notamment sur un marché aussi global. Est-ce que le lien à la famille Mugliese, donc fondatrice d'Auchan, c'est uniquement vendu dans les magasins Auchan ou est-ce que...
Non, pas du tout.
Non,
alors nous, on est
enseigne propre.
C'est notre enseigne. Ce sont nos magasins.
Moi,
donc il y a une partie en propre. On a la moitié du parc des 230 magasins qui sont en propre et une moitié en affiliation. Mais ce sont nos magasins. On est un distributeur spécialisé. On fait partie de la famille, de l'ADN. Donc l'ADN Mugliese, il faut le rappeler, c'est quand même la proximité avec les gens, avec le grand public. Et donc, nous, on part de cet ADN, mais on a des enseignes spécialisées.
On parlait de la matière première tout à l'heure. C'est vrai qu'ici, en France,
dentelle,
on a la dentelle.
La tulle.
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous faites fabriquer en Chine? Là aussi, c'est un parti pris.
Alors, ne fait pas que fabriquer
pas
en
que,
Chine.
Mais
il y a une partie...
En grande majorité.
On fait des bas et collants, par exemple, qui sont fabriqués en Italie. On fait fabriquer, effectivement, à travers le monde, parce qu'il y a aussi des savoir-faire à travers le monde. Et effectivement,
mais c'est
on
vraiment
a une vraie...
le coût de la main-d'œuvre qui fait la différence.
Alors, il y a le coût effectivement de la main-d'œuvre, évidemment. Il y a quand on parle de savoir-faire, il y a le savoir-faire de montage, il y a le savoir-faire de la matière première, de la dentelle. Nous, on a une vraie préoccupation justement à relocaliser et on lance une dentelle française faite dans les ateliers de Calais. On est allé chercher, donc ça s'appelle les ateliers de Seille, et on va lancer justement une gamme en 2019 sur de la dentelle française. Et c'est une vraie préoccupation de maintenir un savoir-faire et de relocaliser de plus en plus. Mais l'accessibilité,
ça veut dire que ça va avoir un...
passe,
ça va avoir un impact sur le prix, parce que j'ai regardé les prix chez vous. Petit prix, c'est 24,99 euros et un peu plus élevé, 44 euros.
Un soutien-gorge d'exception, c'est 44,90.
Et chez vous, Louise Feuillère, un soutien-gorge comme vous le fabriquez à la main, ça va se monter à combien?
Tout dépend de la matière et du temps passé. Alors, tout dépend de ce que vous venez prendre chez nous, en fait, puisqu'on a déjà des collections établies. Ensuite, on fait de la demi-mesure, du sur-mesure et de la grande mesure. Donc, tout dépend des techniques que vous allez pouvoir, que vous souhaitez sélectionner chez nous.
Mais on a une échelle qui va de combien à combien ?
Alors, une échelle qui est très large. On va de 60 euros à 1500 euros.
Oui, effectivement.
À peu près, c'est vraiment le grand écart. Voilà. Parce que c'est effectivement des techniques de montage, des techniques de finition qui sont différentes.
On reste ensemble, on
oui,
continue à parler lingerie, on va accueillir d'autres invités.
Il est 13h19.
Europe 1.
Le marché de la lingerie s'est aussi fait une place, on en parlait sur internet. Livy a ouvert son e-shop et ça cartonne, à tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et aujourd'hui nous découvrons le savoir-faire français en matière de lingerie. C'est aujourd'hui que le tribunal de commerce va se prononcer sur la suite de la lingerie indiscrète. On vous tiendra bien sûr au courant dans la journée, dans les rendez-vous d'information sur Europe 1. Et on parle de cette lingerie française avec vos invités, Raphaël Duchemin. On lit également vos tweets, il y en a des savoureux, n'hésitez pas à continuer à les poster, hashtag Europe 1. Et puis on vous écoute au 3921, c'est le standard.
Oui, nous sommes toujours avec Elisabeth Sayag, qui est, vous le savez, ma complice dans cette émission, et Nicolas Chabanne, fondateur de C'est qui le patron, qui est notre coach, très entouré.
Super,
aujourd'hui, Nicolas.
Heureux, absolument, l'homme le plus heureux du monde.
Bon, je vais vous donner quelques tweets. Tiens, justement, on a Julien qui nous dit « J'achète tous les ans un stock de lingerie fabriqué en France pour une association caritative du linge pour le blé », c'est comme ça qu'elle s'appelle. Olivier qui nous dit « Bien d'accord avec Elisabeth Sayag sur son analyse de la lingerie dans la France qui bouge, on ne peut pas s'en passer et c'est pour cela que le marché résiste. » Et puis Karl Pépito qui nous dit « J'avoue, un plaisir coupable, j'aime porter des slips kangourous, ils sont très confortables et munis d'une poche très utile. » Ça, c'était pour la petite anecdote. Ce sont des messieurs, hein, vous aurez noté, oui, qui écoutent l'émission et qui réagissent. On vous attend bien
un
sûr
petit
au
mot sur Guillaume
Gibault,
hein, pour les hommes, le slip français.
C'est, oui, tellement... c'est un de nos coachs,
ah, mais voilà, c'est une autre journée quand on met simplement des chaussettes du slip français, on se sent mille fois mieux.
Et il y a Alex, justement, sur Twitter, qui vient de tweeter « Le slip français est le seul sous-vêtement que j'ai dans ma garde-robe ».
On fera, je vous le promets, une émission sur la lingerie masculine, c'est promis. Vous connaissez tous, si vous avez à la maison des ados, la marque Undies, eh bien, la directrice artistique s'est dit un jour « Si je faisais ma propre marque, mais pour les femmes cette fois ». Bonjour Lisa Chavy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je schématise, mais c'est un peu ça qui s'est passé quand même dans votre tête pour créer Livy.
Exactement.
Oui. Vous avez regardé le marché et pour vous, il y avait trois gros secteurs, le très haut de gamme, le très cher et puis peut-être une place à prendre entre les deux.
Exactement. Effectivement, le marché, on a l'entrée de gamme, le moyen de gamme avec Rouge-Gorge, Etam, Undies. Quand on regarde le marché, effectivement, le luxe. Mais au milieu de tout ça, il y avait une place à prendre, un boulevard sur une marque mode aussi internationale et justement qui veut conquérir une jeune qui aujourd'hui, quand on voit le succès des marques de prêt-à-porter, luxe accessible, on s'est dit où cette cliente achète-t-elle cette lingerie ? Et on s'est dit, faisons-le.
Oui, vous avez dit, il y a une place pour moi avec mes produits à la fois mode et sexy. Ça fait quand même 15 ans que vous regardez ce secteur, donc vous le connaissez bien.
Exactement. J'ai travaillé pour des marques de luxe avant, je travaillais pour Dior, toujours en lingerie, Kenzo, Cacharel, John Galliano. Et du coup, c'était important aussi pour moi d'apporter un produit luxe, mais qui restait quand même à un prix accessible pour tout le monde. On est autour de 150€, 140€ une parure. Et du coup, ça laisse quand même un certain lifestyle et on peut continuer aussi à s'adresser à une jeune. Et tout le monde aujourd'hui peut s'acheter un Livy. Donc,
Vous avez un public particulier, vous avez ciblé la femme trentenaire à peu près.
Oui, notre cœur de cible. 25, 45, 50 ans, mais surtout la femme aujourd'hui qui évolue, qui est multiple et qui a multiples facettes. C'est pour ça que notre gamme est construite autour de trois villes, Paris, New York, Los Angeles, parce que le week-end, Los Angeles plus cool, plus chill, Paris plus sexy et New York avec un produit plus moderne, plus design, qui justement complète une silhouette jusqu'à on a aussi des produits de prêt-à-porter qui permettent de montrer leur lingerie.
Et aujourd'hui, vous avez votre propre atelier de création. l'association. Vous êtes associé hein, quand même, vous êtes resté avec Etam.
Exactement.
C'est important de continuer cette filiation que vous aviez eue avec Undiz.
Oui, complètement, complètement. Déjà, ça avait beaucoup de sens aussi pour le groupe d'investir dans une marque plus haut de gamme. Et ça avait du sens aussi pour moi d'avoir un moyen de distribuer aussi ce produit au travers le monde et de produire aussi, d'avoir un outil de production important. Donc,
On parlait de l'outil de production justement tout à l'heure avec Coralie Debrune de Rouge-Gorge. On parlait de la Chine, on parlait de ce que vous essayez de relocaliser ici. Exactement, en France. Ouais. Pour vous, c'est pareil, il y a une fabrication qui se fait et qui est assumée d'ailleurs en partie en Chine, en partie en Tunisie, au Maroc également.
Tunisie, Maroc, Chine, on a aussi beaucoup de matières françaises, des dentelles françaises, des dentelles de Calais. Donc c'est vraiment un mix entre ça. Et c'est vrai que sur Lévis, on a beaucoup de produits aussi techniques, thermocollés, qui là, pour le coup, sont aussi un savoir-faire Sri Lanka, Chine, donc qui nous apportent aussi une technique différente.
Vous savez que je suis un peu une rêveuse ici. Moi, j'aimerais qu'on réussisse à recréer une filière. On voit qu'il y a des maisons qui ont mis la clé sous la porte, qui étaient des maisons historiques de lingerie. Est-ce que vous croyez que c'est possible réellement aujourd'hui de tout réimplanter ici en France?
Je pense que la distribution, on a besoin justement de cette distribution pour alimenter ces filières. Et je pense qu'il y a quand même un mouvement, parce qu'il y a une lame de fond dans la société sur l'environnement, l'écologie, le zéro waste, etc. Je pense que les distributeurs et Rouge-Gorge y est particulièrement sensible. Et moi, quand j'entends la directrice de l'offre qui est particulièrement branchée écologie, qui a vraiment un amour de savoir-faire et son rêve, effectivement, c'est de relocaliser le plus possible.
Même analyse, Lisa?
En tout cas, oui. À côté de ça, nous, on développe beaucoup en France. C'est vrai que tout le savoir-faire, le développement, les produits, tous les size sets, enfin toutes les tailles sont développées en France. Et après, effectivement, il y a une production qui se fait à l'étranger. Mais on utilise quand même ce savoir-faire et ces équipes en France pour travailler avec nous sur le développement de nos marques.
Le mot du coach?
Oui, rapidement. Ben, vous avez réuni quasiment l'univers complet de la lingerie. Voilà, bravo. Et puis, le commerce en ligne. Le rêve absolu du commerce en ligne, c'est quand même un produit avec une valeur qui n'est pas lourd, parce que le transport, évidemment, coûte beaucoup.
Oui.
Donc, j'imagine que ça doit être un secteur tellement tracteur d'offres, c'est ça? Et vous êtes,
complètement. Et pour nous, c'est très important sur Lévis. On vient même de lancer le triatome. Oui. Le triatome, c'est la possibilité
qu'on essaie
de
pouvoir et on peut vous le renvoyer.
Essayer, enfin, de commander plusieurs produits, plusieurs tailles, effectivement, pour suite à toutes ces contraintes de femmes qui n'achètent pas forcément leur taille. Elles essayent à la maison, qui est quelque part leur plus belle cabine. Et après, elles renvoient les produits qu'elles ne gardent pas, et elles sont d'éviter uniquement au moment où elles choisissent les produits qu'elles gardent. Donc c'est vrai que pour la lingerie, c'était vraiment quelque chose d'important pour nous. Comme l'expérience client, ça complète justement l'expérience client d'une marque premium.
On reste ensemble, on continue à parler lingerie sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1.
Et elle peut encore être fabriquée ici chez nous en France, cette lingerie. Fleurs, Pois et compagnie en est aussi la preuve. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et le savoir-faire français de la lingerie est à l'honneur aujourd'hui dans cette émission grâce à vos invités. Raphaël Duchemin, vous pouvez continuer à nous parler de votre lingerie, de vos choix de lingerie. Est-ce que vous donnez priorité à la lingerie française? N'hésitez pas. Twitter, hashtag Europe 1 et le standard, le 3921.
Avec Elisabeth Assayag, Nicolas Chabanne, le coach du jour, Louise Feuillère, Coralie Debrune pour la marque Rouge-Gorge, Lisa Chavy pour la marque Lévis. Et nous allons accueillir une quatrième représentante de cette lingerie française. Vous connaissez tous, hein, évidemment, on en parlait, l'histoire d'Indiscrète. C'est vrai qu'il y a beaucoup de repreneurs qui se bousculent désormais au portillon. Mais avant, c'est vrai qu'il y a eu aussi d'autres sagas dans ce monde de la lingerie. Je pense évidemment au Lejabi, je pense aux Obad. Eh bien, ce sont d'anciennes couturières qui travaillent aujourd'hui avec Caroline Juvin. Bonjour Caroline.
Bonjour Raphaël,
merci.
Bonjour Elisabeth et bonjour et toutes les personnes qui sont là. Merci de nous accueillir.
Vous avez fondé Fleurs, Pois et compagnie. Je crois que l'idée vous est venue en 2014 quand votre fille tout simplement a cherché ses premiers dessous. Vous êtes aperçue à l'époque qu'il y avait beaucoup de choses proposées mais qui étaient soit trop femmes, soit pas assez.
Voilà, alors c'est un petit peu plus tôt, c'est en 2012 que je me suis penchée sur la question parce que le changement du corps d'une jeune fille à une femme est très important. Pour moi, personnellement, ça a été quelque chose d'important, donc je voulais que pour ma fille, ça soit important. Et comme vous l'avez dit, oui, trop sexy, trop femme, et pour moi, pas adapté à une jeune fille qui doit garder sa féminité, mais qui n'a, à 12 ans, pas besoin de choses trop sexy. Donc, j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'il n'existait rien dans ce domaine à cette époque-là. Et 2 ans plus tard, après avoir fait des études de marché, trouvé les fournisseurs et trouvé tout le monde, j'ai lancé Fleurpoix et compagnie, qui aujourd'hui est vendue à 85% à des femmes qui ont plus de 30 ans.
Oui, vous proposez de la lingerie essentiellement en coton, hein, je crois.
Voilà, alors notre lingerie, elle est en 100% coton tissé, avec deux gammes, du coton normal et du coton écologique, qui n'est donc pas blanchi au chlore et avec des encres naturelles. Et nous faisons faire la totalité de ces imprimés en France, à côté de Lyon.
Alors, vous n'êtes pas avec nous aujourd'hui parce que vous deviez rencontrer, je crois, des ex-obades. C'est ce savoir-faire si particulier qu'on va chercher avec des spécialistes comme celle-là.
J'ai pas compris le début de votre question, excusez-moi.
Vous n'êtes pas avec nous parce que vous aviez une rencontre, crois, prévue avec des ex d'Obade.
Avec des ex de l'Eujabi, qui sont à Bellegarde et que j'ai vu ce matin très tôt.
Vous allez travailler avec elles. C'est important de garder ces savoir-faire.
Alors, nous, ça fait 4 ans qu'on ne fait travailler que des corsetières françaises. Donc, on a commencé par, justement, les ex de l'Eujabi à Bellegarde, qui sont vraiment les irréductibles qui n'ont pas voulu déménager dans les années 80-90 sur Bourg-en-Bresse, qui était trop loin. Et ensuite, on fait aussi travailler donc des ex de l'Eujabi qui sont à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. Et les anciennes d'Obade et moitié l'Eujabi, moitié Obade sont à côté de Saint-Étienne.
Alors, je voudrais faire réagir évidemment toutes les personnes qui sont présentes. Lisa, je crois que vous travaillez aussi avec elle.
Un peu avec Bourg-en-Bresse, justement, sur des lignes de maillots de bain, sur de la réactivité très courte en un mois entre la remise du dossier et la production. Enfin, ça a été super. C'était une belle expérience aussi.
Coralie, Louise, même chose. C'est important de garder tout ça chez nous.
Puisque nous avons l'atelier d'intégrer, donc on va rarement à l'extérieur pour fabriquer. Donc
oui, parce que vous faites de la formation, Louise.
Oui, aussi on fait de la formation professionnelle. Donc c'est vrai que nous, on est vraiment dans le cœur et la maîtrise de l'art de la coupe. Donc on a des maisons prestigieuses comme Jean-Paul Gaultier, après des institutions nationales françaises qu'on ne peut pas citer, donc voilà, et puis des groupes industriels qui viennent chercher chez nous un véritable savoir-faire maîtrisé et qui n'est pas que dans les mots en fait, qui est aussi dans une réalité, c'est-à-dire que nous maîtrisons l'art de la coupe, mais vraiment très finement. Donc quand il y a des problèmes, c'est vrai qu'on se retourne vers les gens qui sont capables de les solutionner en fait.
Oui, parce qu'on est sur des plus petites échelles effectivement en termes de fabrication.
Non, pas forcément. Non, là c'est pour des fabrications, je sais pas, ils fabriquent 2000, 10 000 pièces. Non, c'est des grosses fabrications. Donc là on est plus dans du consulting en fait.
Coralie?
Oui, écoute, nous, c'est vraiment l'issue de cette rencontre justement avec Deseille qui nous a permis, cette rencontre avec ce monsieur qui nous a permis de recréer effectivement une dentelle et de travailler avec eux. Donc on multiplie, on essaye justement d'aller à travers la France rencontrer ce type d'atelier et de voir comment on peut fonctionner demain avec eux. Voilà, c'est une démarche qui est en cours et voilà, qu'on aimerait effectivement poursuivre pour recapitaliser sur le savoir-faire.
Lisa.
Nous étions encore une usine en France où il y a encore 60 personnes qui travaillent, mais vraiment, comme je vous expliquais tout à l'heure, plus sur le développement et des toutes petites séries ou des actuas, mais on a encore ce savoir-faire en France aussi.
Que dit le coach Nicolas Chabanne?
Alors, quand j'écoute, j'essaie de pas trop parler de ce qu'il le patron, mais là, c'est toujours la même histoire. Il y a tellement de gens qui voudraient acheter dans une dimension de savoir-faire à des produits français qui privilégient l'emploi français. Mais comme on a du mal à identifier ces offres, peut-être qu'il faut renverser le schéma, amener les consommateurs dans une information en amont et qu'ils décident ensemble de privilégier un produit qui sera plus français. C'est important de recréer ce lien entre le consommateur en amont et le produit qui arrive ou en rayon ou sur Internet.
Elisabeth, on a de très belles marques françaises qui sont avec nous ici aujourd'hui sur Europe 1. Vous en avez trouvé d'autres qui sont là, qui résistent toujours.
Mais oui, elles résistent. Alors pour vous, j'ai sélectionné la bonnetterie Le Mailleux. Ils existent depuis 1947 et si vous vous connectez sur leur site Internet aujourd'hui, bien sachez qu'ils recrutent 15
couturière, la bonneterie Le Mailleux. Etam, bien sûr, entreprise familiale toujours française, qui s'était orientée pendant un petit moment vers le textile et qui aujourd'hui, 70% de ses ventes sont dans la lingerie. Le groupe Chantel, qui existe depuis 1876. Ce groupe, c'est aussi Darjeeling, Passionata. Et vous avez des tas de petites marques comme Ma Petite Culotte, Charlotte Lingerie, Matin d'Avril ou Esquisse Paris. Et pour les petites poitrines, vous avez aussi Isée, petite marque française pour les petits bonnets qui petit à petit est en train justement d'agrandir ses références.
Donc justement, nous sommes spécialisés depuis un certain temps dans beaucoup de morphologies. Donc on fait des petites poitrines avec des dos larges, on fait des poitrines aussi plus classiques et des poitrines généreuses.
Et oui, voilà. C'est l'art du sur-mesure, évidemment. Je voudrais rajouter...
Si je peux me permettre aussi de la confection, parce que c'est vrai que nous sommes connus dans le sur-mesure, mais nous avons déjà des tailles préétablies.
Je voudrais rajouter aussi à la liste, parce qu'on a un appel de Marc en Haute-Loire qui nous dit « Je suis le patron d'une marque de lingerie Luxam, basée dans la Haute-Loire. Nous faisons travailler 20 personnes en France. »
Luxam.
C'est bien de leur donner aussi un petit coup de chapeau. Merci à toutes d'être venues nous rejoindre sur Europe 1. Merci à Caroline Juvin qui était avec nous pour Fleurs, Pois et Compagnie en ligne, évidemment.
Il est 13h39.
Europe 1.
Ils éclairent nos jours, nos nuits depuis 1927. Sam Mode est l'entreprise qui va bien, merci.
La France bouge tous les jours sur Europe 1 jusqu'à 14h et tous les jours, Raphaël Duchemin, vous nous présentez une entreprise française, bien sûr, qui va bien. Celle d'aujourd'hui nous éclaire depuis très longtemps.
Oui, levez la tête si vous êtes dans une gare, vous voyez les tubes lumineux qui sont au-dessus de vos têtes. Eh bien, c'est en France qu'on les fabrique. Bonjour Emmanuel Gagné.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de Sam Mode. C'est votre arrière-grand-père qui a créé l'entreprise. Sam Mode, on est d'accord, c'est un anagramme.
Exactement, ça veut dire société d'application des méthodes modernes d'éclairage électrique.
Oui, je vous ai laissé le dire, hein, vous avez vu.
Alors,
vous avez l'habitude. Ouais. Au départ, je crois qu'il vendait de la limonade, c'est ça ?
La bière.
S'est passé ?
La bière.
Comment il en est venu à la lumière ?
Il a eu une vision qui a peut-être plus d'avenir dans l'éclairage électrique dans les années 20 que dans les brasseries. Donc il a acheté un site avec un moulin hydraulique, de l'énergie déjà, et puis il a créé une usine... Et une affaire en fait d'éclairage technique qui depuis a perduré.
Donc il investit dans une société qui fait de l'éclairage. Il produit pour qui au départ ?
Tout le monde.
Tout le monde.
Les gares, les ateliers, les villes, les magasins, l'industrie, le living room déjà en fait chez soi. Et ça a été une parenthèse qui a duré quasiment 30 ans. Puis ensuite on s'est investi à fond dans l'éclairage industriel pour ambiance extrême avec l'invention d'un luminaire emblématique aujourd'hui qui est le fameux tube Sam Mode qui a donc plus de 50 ans et qui ensuite a intégré l'architecture dans les années 90 et puis depuis 5 ans on a investi le monde du design.
Oui, on est revenu aux sources. On connaît tous vos produits en fait sans le savoir.
Exactement, mais maintenant vous commencez un peu plus à le savoir grâce justement à l'activité design qu'on a développée et la distribution dans des grands magasins ou dans des magasins spécialisés.
Je vais rembobiner un peu, les années 70 c'est vraiment le moment du gros changement qui s'opère parce qu'on passe dans l'industriel hein, à ce moment-là.
Ouais, c'est aussi là que se forge un élément très fort de l'identité de l'entreprise qui était la très haute technicité, la durabilité. La résistance des produits, la réparabilité, en fait plein d'éléments et un ancrage territorial très fort dont on bénéficie en fait encore aujourd'hui et qui fait une de nos singularités.
Ce qui est amusant, c'est que vous allez très vite dans les années 70, puis finalement vous vous rendez compte que dans les années 80, c'est pas mal d'opérer un petit retour en arrière en fait. Hein. Vous avez équipé le Palais Royal, la Bibliothèque de France, le Château de Versailles.
Oui, mais en fait notre force c'est l'écoute des clients. Donc ce sont les architectes qui ont détecté en fait les qualités de ce produit à l'origine industrielle et des produits qui duraient 10 ans, 20 ans, 25 ans dans les atmosphères les plus extrêmes et vous avez plein d'applications architecturales, vous avez besoin de résistance. Ensuite, le design du produit a une forme d'évidence en fait que toute une école d'architecture a identifié et puisque nous, on développe nos produits en France, qu'on les fabrique en France et qu'on intègre la fabrication, développer des adaptations donner de la flexibilité, ça a une valeur en fait considérable en termes de justesse des usages, en termes d'intervention design, en termes de mode de mise en œuvre.
Que dit le coach Nicolas Chaban ?
C'est un secteur que je connais pas du tout, mais ce qui est toujours impressionnant, c'est de voir ces belles histoires, bientôt 100 ans, c'est absolument incroyable que des générations aient pu comme ça, au fil du temps, développer 1927, c'est incroyable. qu'est-ce qui fait dans un secteur comme ça, quand on vend en plus à l'international, qu'on est finalement une entreprise qui prospère, qui est recherchée et qui se développe? En trois mots, si on devait les résumer, qu'est-ce que vous diriez?
Alors, excellence technique, design et développement durable. La durabilité intrinsèque des produits.
Troisième
ça
argument,
Manique,
merveilleux.
Oui, c'est bien, d'accord. Je crois que vous avez...
Et j'en mettrai un quatrième, parce que tout ça ne peut exister que si vous appuyez sur des hommes et des compétences.
Combien
et
donc, de personnes aujourd'hui qui travaillent chez Samode?
Alors, Samode, en tant que telle, on est une centaine de personnes, entre le centre de R&D dans le Loir-et-Cher, dans l'usine historique, qui est le berceau de l'entreprise, donc à Châtillon-sur-Saône, qui est un magnifique village, et puis le siège parisien, parce que dès les années 30, en fait, le siège était à Paris, donc il y avait déjà cette multiplicité d'implantations. Et puis on vient de reprendre des entreprises en Allemagne.
Trois entreprises allemandes cette année. Hein.
Ouais, pour intégrer réintégrer de la valeur, de la flexibilité, de l'expertise industrielle. Et donc on est un petit peu moins de 300 personnes avec une portée maintenant quasiment mondiale avec des filiales étrangères.
Ouais, et puis vous êtes modeste parce que ce que vous ne dites pas, c'est que vous maîtrisez vraiment toute la chaîne. Hein. C'est un vrai savoir-faire que vous avez. Vous avez l'atoll, le moteur lumineux. Vous maîtrisez vraiment
les LED,
tout
absolument, de
bout en bout.
C'est la condition, je pense, de... Après, si vous faites des produits, les Chinois savent faire des produits très peu chers. Si vous offrez pas une certaine valeur ajoutée, de la singularité, il y a énormément d'espace de différenciation. Et pour ça, faut maîtriser toute la chaîne de la conception à la fabrication.
Un succès qui s'appuie sur des emplois français.
Oui.
C'est quelque chose à prendre et à mettre en valeur.
C'est l'entreprise qui va bien. Merci aujourd'hui. C'est Samode. Merci d'être venu.
Merci beaucoup.
Nous en parler sur Europe 1.
Il est 13h48.
Europe 1.
Un bracelet connecté pour alerter en cas d'agression sexuelle, c'est la solution aujourd'hui sur Europe 1. À tout de suite.
La France bouge tous les jours sur Europe 1 jusqu'à 14h et tous les jours juste avant 14h, Raphaël Duchemin, vous nous proposez la solution du jour et aujourd'hui c'est à l'occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes.
Imaginez une application, un bracelet d'alerte pour vous venir en aide aux filles, aux femmes victimes de violences. C'est effectivement la solution d'aujourd'hui, Elisabeth Assayag, et elle s'appelle AppL.
Oui, je commence avec ces chiffres qui font froid dans le dos. Pas moins de 9 personnes sont violées chaque heure dans notre pays et chaque année, près de 200 000 tentatives de viol ont lieu. Il y a 2 ans, une association qui s'appelle Résonante crée une appli AppL, A2P-E2LES. Elle permet de contacter en urgence 3 amis très proches, surnommés les anges gardiens. L'association a pour but de simplifier l'accès aux différentes ressources d'aide aux victimes. C'est un énorme succès. 2 ans après, aujourd'hui, apparition d'un bracelet connecté, toujours en lien avec l'appli AppL. Ce bracelet permet le déclenchement de l'alerte, encore plus rapide et discret. Le processus d'appel au secours se produit dès lors qu'une pression d'au moins 4 secondes est exercée sur le bracelet.
Et la fondatrice et présidente d'Appel est avec nous. Bonjour Diaratia Ndiaye.
Bonjour.
Merci d'être là sur Europe 1. Pourquoi est-ce que vous avez pensé à ce bracelet connecté?
Alors déjà, je vous remercie pour cette invitation. Je suis
ravie de vous avoir avec nous.
Donc l'idée, c'était de donner des solutions concrètes aux victimes de violences, mais aussi à toutes les personnes qui les entourent. Et on dit souvent aux victimes qu'elles ne sont pas seules. Et l'idée, c'était qu'elles sachent vraiment qu'elles n'étaient pas seules et qu'elles pouvaient compter sur des personnes, sur des proches qui pourraient agir à leur place en cas de besoin. Donc l'idée de cette application, c'est vraiment de simplifier cet appel à l'aide, l'appel donc en direction des proches, mais pas seulement, aussi l'appel vers les associations et les structures qui peuvent les accompagner dans leur démarche. Et vraiment l'idée, c'est grâce à ce bracelet, d'enclencher une alerte rapide et de donner des informations précises, concrètes à ces 3 anges gardiens pour qu'elles agissent en soutien à la victime.
Alors c'est quoi ces informations concrètes? Concrètement, ça fonctionne comment cas d'agression?
Une fois que l'alerte est enclenchée, les 3 personnes de confiance entendent en direct ce qui se passe et elles ont la position GPS de la personne. Elles peuvent tout de suite comprendre si la personne est dans une situation dangereuse, si c'est plutôt quelque chose, si c'est plutôt une alerte qui donne un signal préventif préventif, exactement, parce qu'on sait par exemple que dans le cadre des violences conjugales,
il y a des signes avant-coureurs.
Exactement, on sent cette tension monter. Donc l'idée, c'est aussi d'alerter, que les personnes de confiance entendent qu'une situation est en train de dégénérer et qu'ils puissent agir, soit se déplacer, soit passer un coup de fil, soit détourner l'attention de l'agresseur. Enfin, il y a plein de choses à faire en prévention. Et l'idée, c'est de dire que ces victimes ne sont pas seules. Et c'est aussi un message à toutes les personnes qui sont autour. Quand on est proche d'une victime de violence, on a envie de l'aider, on a envie qu'elle sache qu'on est présent, et c'est donner un vrai rôle à ces personnes-là, leur donner la possibilité de servir à quelque chose, quoi.
Elisabeth,
alors comment on se procure ce bracelet pour ces femmes, ces personnes qui nous écoutent?
Alors il y a deux façons de se procurer le bracelet. Les femmes victimes de violence, pour nous, vraiment l'idéal, c'est qu'elles l'aient gratuitement, parce que l'accès à la sécurité et au bien-être, c'est quelque chose qui devrait être gratuit. Donc l'idée, c'est qu'elles puissent en bénéficier gratuitement en étant accompagnées par des associations. Mais pour que ça soit gratuit, il faut que les institutions financent ce bracelet. Elles peuvent l'obtenir pour un tarif à prix coûtant qui est de 15 euros.
Il y en a déjà combien en circulation aujourd'hui?
Alors là, on a fait une première
distribution.
De 10 000 bracelets. On a 2 000 bracelets qui vont être distribués aux associations présentes en région Pays de la Loire. On a la ville d'Agen, par exemple, qui en a 500. On a la ville d'Orléans qui part sur 300 bracelets. Donc l'idée, c'est que les victimes, celles qui en ont besoin, puissent l'avoir gratuitement grâce au financement des institutions, mais pour le grand public, parce qu'on se retrouve également avec plein de personnes qui ont besoin d'être rassurées dans l'espace public. On a des joggeuses, par exemple, on a des personnes qui utilisent les transports en commun, qui peuvent se le procurer pour le prix de 30 euros.
Merci beaucoup d'être venu nous en parler. C'était la solution du jour. On rappelle, ça s'appelle Appel AP-E2LES. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à Nicolas qui reviendra très bientôt. Nous, on se dit à lundi.
Nouvelle adresse
dans notre nouvelle adresse. Et oui, c'est la dernière aujourd'hui à François 1er. On est touché, ému aussi. Un petit pincement au cœur.
Merci, c'était Raphaël Duchemin sur Europe 1. Dans un instant, à 14h pile, vous avez rendez-vous comme chaque jour avec Christophe Ondelat et ses affaires criminelles. Dans un instant, Christophe Ondelat vous raconte l'affaire Brouée en Artois. En avril 1972, le corps de Brigitte, une jeune fille mineure, est découvert sur un terrain vague. Brigitte va devenir le symbole de la lutte des classes. C'est dans un instant et c'est sur Europe 1.